En séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
La séance du 29 octobre 2007 de l'Académie des sciences morales et politiques a permis au juriste Roland Drago de s'exprimer sur les autorités administratives indépendantes. Après avoir donné une définition de ces autorités administratives indépendantes, il a présenté en détail la HAS, la Haute Autorité de la Santé, puisque le thème de l'année 2007 à l'Académie porte sur les questions médicales et de santé. Puis Roland Drago a précisé les risques de la multiplication de ces autorités administratives indépendantes. Il en existe 56 en France et elles se développent aussi dans tous les pays, quelle que soit la structure de l'État. Roland Drago, qui dirige à l'Académie un groupe de travail sur les autorités administratives indépendantes, a posé dans cette communication plusieurs questions essentielles. Ces autorités alourdissent-elles le système administratif? Sont-elles véritablement indépendantes et par rapport à qui? Permettent-elles de respecter le principe de séparation des pouvoirs? Se sont-elles substituées aux décisions ministérielles? Bref, les autorités administratives indépendantes vont-elles faire exploser le pouvoir exécutif? Réponse avec Roland Drago, juriste de l'Académie des sciences morales et politiques.
Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, mes chers confrères, je vais donc aborder cette question dont le titre est « L'émergence des autorités administratives indépendantes dans le domaine de la santé ». Si vous le permettez, avant de prendre la parole sur le problème lui-même, je voudrais présenter deux remarques. La première, c'est que cette question des autorités administratives indépendantes, nous la traitons déjà ici depuis un peu moins d'un an, dans un groupe de travail dont l'Académie m'a confié la direction, qui est composée de membres de l'Académie, de membres éminents de l'Académie nationale de médecine et de spécialistes, pour aboutir non pas à étudier le phénomène en soi, mais à voir comment il débouche et quel peut être l'avenir à partir de cette notion. La seconde remarque que je ferai, c'est que justement à ce propos, et sachant que les services du médiateur s'occupaient de ce problème et essayaient de résoudre un certain nombre de questions, j'ai demandé à M. Delvoye, médiateur de la République, de venir prendre la parole devant nous. C'est ce qu'il va faire le mardi 27 novembre à 11h30 dans cette salle même. Je remercie le secrétaire perpétuel qui a bien voulu organiser cette rencontre. Et de cette façon, je souhaite que non seulement les membres du groupe de travail, mais aussi vous, les uns et les autres, puissiez assister à cette séance qui va permettre peut-être d'avoir des informations sur les inquiétudes que l'on pouvait avoir à ce sujet. Le président a signalé la curiosité des autorités administratives indépendantes dans notre situation actuelle, et il a bien raison. Il a bien raison de le faire, parce que si l'on essaye de les situer dans un cadre général concernant l'ensemble des pays du monde, on voit que leur place est difficile à définir. Essayons de voir un peu quelle est la structure d'un État, quel que soit son régime juridique, quelle que soit même son orientation politique. Dans un État, il y a un chef d'État et un gouvernement avec des ministres qui gouvernent, qu'ils soient responsables ou non, peu importe, ça n'est pas le problème, le régime de la question qu'il s'agit de trancher. Il y a ensuite des circonscriptions locales, très anciennes et réorganisées, à 3 degrés généralement, la région, le département, la commune. Et puis enfin, il y a des services auxquels on a conféré la personnalité juridique et qui sont, depuis le Code civil, l'expression figure dans le Code civil, des établissements publics, par exemple les universités ou les hôpitaux, et on se trouve là à avoir terminé. En ce sens que, notamment les instances gouvernementales, mais aussi les instances locales, ont la possibilité d'organiser des services pour régler tel ou tel problème particulier. Or, on a vu en France et dans le monde, je dis bien, depuis 40 années, naître des institutions tout à fait originales qui, en France, ont pris un développement important, mais qui ont pris ce développement important dans l'ensemble du monde. Ailleurs, c'est l'appellation britannique qui est utilisée. On dit les Congos, et tout le monde sait ce que ça veut dire. Ça veut dire quasi-autonomous non-governmental organizations, c'est-à-dire quasi-autonome organisation non-gouvernementale. Et les Congos, dans un colloque qui a eu lieu l'année dernière aux Pays-Bas, il a été question de 15 pays dans lesquels les Congos existent, de telle manière que cette maladie, si on peut parler de maladie, que cette maladie existe dans la plupart des pays et qu'ils ont donc des, que ce phénomène a donc des caractéristiques particulières. Comment, au point de vue de la base du raisonnement, comment peut-on définir de façon d'abord très rapide et très resserrée ces autorités administratives indépendantes? On dira qu'une autorité administrative indépendante est une institution créée par la loi, si je parle d'abord de la France, créée par la loi, dirigée par un conseil délibérant comprenant des personnalités indépendantes, souvent dotées de la personnalité juridique et chargées de gérer un secteur de la vie nationale dans le domaine économique, technique, social, politique, intellectuel, et n'étant pas soumis à la hiérarchie ministérielle. Elle agit, cette autorité, par des propositions, des avis, des règlements, des décisions individuelles et des sanctions. Voilà quelle est la définition qu'on peut donner. On la retrouverait d'ailleurs dans la plupart des autres États. Et dès qu'un problème nouveau ou prétendu nouveau se présente, les autorités publiques décident souvent de créer une institution de ce genre. Pour ne parler que de la semaine dernière, il a été indiqué dans les annonces gouvernementales qu'une haute autorité sur les OGM allait d'être créée, et voilà une autorité supplémentaire qui apparaît. Je voudrais, pour pouvoir étudier cette question, la diviser en trois aspects pour avancer progressivement vers une conclusion qui sera la place dans l'État d'un système de ce genre et le changement même des structures des étatiques à partir de l'apparition des autorités administratives indépendantes qui peuvent sembler au départ des instances, comme on en a souvent connu, de commissions dont les avis étaient donnés à propos de toutes sortes de questions, mais qui aujourd'hui prennent une importance plus grande puisque, par définition même et à partir des caractères que je viens d'indiquer, elles ont des situations très particulières. Cet exposé sera divisé en trois parties. J'étudierai d'abord, dans une première partie, une vision d'ensemble des autorités administratives indépendantes. En second lieu, parce que c'est le sujet, j'étudierai la haute autorité de santé plus profondément pour montrer ses caractéristiques particulières en raison même et de son importance et de sa récente création, 2 ans seulement, 2 ans, 3 ans. Et enfin, la troisième partie concernera les avantages, les difficultés et les risques de ces institutions, et notamment de celles dont nous aurons parlé en second lieu. Les travaux qui ont été effectués à propos des autorités administratives indépendantes sont très nombreux. Je n'en citerai qu'un, qui est le travail effectué à l'Office parlementaire sous l'égide d'un sénateur et qui est un énorme travail qui a abouti à des enquêtes extrêmement sérieuses et a dévolu à 2 volumes qui permettent d'avoir des informations très complètes sur les autorités administratives indépendantes, mais la littérature les concernant est évidemment très nombreuse. Le premier problème qui se pose concerne donc la place des autorités administratives dans l'État telles qu'on les conçoit aujourd'hui. Dans un État normal, tel que nous le connaissons depuis toujours et tel que le sont tous les États du monde aujourd'hui, quel que soit leur caractère politique ou juridique, le système administratif comprend des ministères, des services extérieurs et des services centraux. Les autorités administratives indépendantes vont donc se trouver en présence de ce système et on voit tout de suite qu'elles ne peuvent, et juridiquement et matériellement, que se situer à côté. Si on essaye de les classer, on peut voir qu'elles sont de trois sortes. Non pas qu'elles aient entre elles des différences profondes, mais il y a quelques différences dont on se demande d'ailleurs ce à quoi elles ont pu servir. Il y en a à l'heure actuelle, d'après l'enquête dont je viens de parler, 55 en France. Il y en aura 56 avec la nouvelle dont j'ai parlé, et peut-être d'autres qui n'ont pas été comprises dans cette classification. La première catégorie est la plus ancienne et elle a une masse importante. Le premier qu'on puisse citer, c'est le médiateur qui a été créé en 1963. Et très curieusement, le médiateur en tant qu'homme est aussi classé par l'opération dont je viens de parler, parmi les autorités administratives indépendantes, ce qui est évidemment une situation très particulière, car généralement, l'expression autorité administrative indépendante signifie un groupement. Après le médiateur, il y a la CADA, Commission d'accès aux documents administratifs, destinée à élargir les droits des citoyens à l'égard de l'administration, la CNIL, Commission nationale informatique et liberté, création très particulière et à certains égards très originale, car contrairement à une vision juridique classique, il est possible qu'elle puisse suivre les développements des phénomènes de l'informatique au fur et à mesure de leur modification. Enfin, le CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui a changé de nom à plusieurs reprises, et qui s'occupe, comme on le voit, des problèmes de l'audiovisuel. Un second groupe est, à certains égards, plus récent, mais surtout plus caractéristique. En tête, il faut situer deux organismes qui sont, eux, très importants et très particuliers. C'est le Conseil de la concurrence, créé en 1986 et modifié en 1987 dans des conditions que j'indiquerai, et dont la création, ou plutôt la transformation par rapport aux organismes existants depuis la fin de la guerre, le Conseil de la concurrence, parce qu'il est destiné à faire respecter les principes de la concurrence tels qu'ils résultent du traité de Rome, tels qu'ils résultent du système communautaire, et par conséquent, il se trouve dans une situation très particulière, puisque, par définition, il est encadré par les dispositions communautaires, mais aussi par les dispositions nationales. Et, au même titre, on doit situer également l'autorité des marchés financiers, réorganisée en 2003, et qui regroupe deux institutions qui existaient jusque-là en ce qui concerne la banque et la bourse. Et, enfin, la Haute Autorité de Santé, qui a été créée il y a 2 ans. La Haute Autorité de Santé, qui regroupe plusieurs autorités et qui avait jusque-là des compétences partielles, mais qui ne les a pas toutes regroupées. Enfin, le troisième groupe est très divers. Il convient de signaler, parce qu'elle fait beaucoup parler d'elle, la HAL, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, créée par une loi de 2004 sur le modèle de la HAS, justement, la Haute Autorité de Santé devenant en quelque sorte un modèle de modèle. Mais on peut également signaler les organismes chargés de la régulation, d'une part, des communications électroniques, d'autre part, des communications des postes, d'autre part, de la régulation de l'énergie et de la privatisation des entreprises publiques, et puis d'autres encore concernant les élections, les sondages, la presse, l'éthique, etc. Vous le voyez, il y a là un ensemble, et j'en ai laissé de côté, qui sont de type secondaire, et qui ont des fonctions dans des domaines qui sont chaque fois très précis et qui aboutissent donc à des réalisations concrètes. La première question qu'on peut se poser est évidemment de rechercher si ces créations ont alourdi le système administratif. L'enquête parlementaire dont j'ai parlé a abordé ce problème sans pouvoir lui donner une réponse catégorique. Il est certain que ces autorités administratives indépendantes sont des institutions administratives. Il est certain qu'elles sont donc soumises aux règles générales du droit administratif, bien que, et on le verra dans un instant, il y ait des divergences qui se sont produites. On doit en citer une qui est particulièrement importante, c'est qu'en ce qui concerne aussi bien le conseiller de la concurrence que l'autorité des marchés financiers, les recours sont portés contre certaines de leurs décisions, et notamment les sanctions, non pas devant le juge administratif, comme c'est la règle en application du principe de séparation des pouvoirs, mais devant la Cour d'appel de Paris, ce qui fait dire aux journalistes qu'il y a un appel devant la Cour d'appel de Paris, ce qui est faux, puisque aussi bien le Conseil de la concurrence que le système des marchés financiers sont des autorités administratives. Le problème, et le président évoquait la question il y a un instant, qui s'est posé tout de suite, a consisté à savoir si on se trouvait là en présence d'une situation qui correspondait aux principes fondamentaux de la Constitution, notamment au principe de la séparation des pouvoirs, mais aussi au principe de la compétence en matière juridictionnelle. La question a été soumise pour la première fois au Conseil constitutionnel en 1986, dans l'affaire qui concernait l'ancêtre de CSA, et voici ce qu'il a répondu, considérant que dans l'exercice de ses compétences, la CNCL sera, à l'instar de toute autorité administrative, soumise à un contrôle de légalité qui pourrait être mis en œuvre tant par le gouvernement qui est responsable devant le Parlement des activités des administrations de l'État que par toute personne qui aurait intérêt. Or, vous le voyez, il y a déjà dans cette formule une ambiguïté, puisque par définition, elles sont indépendantes par définition des autorités étatiques, puisque un de leurs caractères principaux est leur indépendance. Et c'est peut-être pourquoi, dans l'appellation en langue anglaise, on dit quasi-autonomous, ce qui veut dire qu'elles ne sont pas autonomes de façon complète. Le Conseil constitutionnel a ensuite précisé un certain nombre de points. Il a décidé que seule la loi pouvait créer des autorités administratives indépendantes en 1984. D'autre part, il est intervenu à plusieurs reprises en ce qui concerne leurs compétences, mais néanmoins, jamais on n'a posé devant lui, mais il aurait pu peut-être soulever la question d'office, on n'a jamais posé devant lui le problème de la validité globale des institutions de ce genre. Le seul exemple qu'on peut prendre, et j'y reviens, c'est le contrôle qui est exercé par la Cour d'appel de Paris sur les décisions, sur un grand nombre de décisions du Conseil de la concurrence et du Conseil des marchés financiers. Or, il se trouve que ce contrôle par le juge judiciaire a été considéré comme valide à juste titre par le Conseil constitutionnel parce qu'il a considéré qu'on n'était pas en présence de recours pour excès de pouvoir, mais de recours qui s'assortissent au plein contentieux. Mais le juge judiciaire n'est pas le seul juge compétent à propos de ces autorités. Il y a aussi des cas, par exemple lorsqu'ils prennent des mesures réglementaires qui relèvent de la compétence du Conseil d'État ou, pour les décisions individuelles, éventuellement de la compétence des tribunaux administratifs. Ainsi apparaissent déjà, à propos de ce groupe, de ces trois groupes et des problèmes généraux qui se sont posés, un certain nombre de difficultés et sur lesquelles, évidemment, il faudra revenir de façon plus détaillée par la suite. Et c'est à cette occasion, justement, qu'on a songé que, en raison même de l'importance prise par les problèmes de santé et par les problèmes de médicaments principalement, il convenait de créer une autorité administrative indépendante qui est la Haute Autorité de Santé. Je voudrais bien m'étendre un peu plus à propos de cette Haute Autorité, non seulement parce qu'elle est l'objet du groupe de travail dont j'ai parlé, mais aussi parce qu'elle pose des problèmes majeurs qui sont d'ordre juridique, certes, mais aussi financier et surtout humain. La Haute Autorité de Santé a été créée par la loi du 13 août 2004 et un décret de 2005. L'adjectif « haute » est utilisé par quelques autres autorités, on l'a vu, ce qui peut signifier, mais la coïncidence n'est pas complète, que les hautes autorités ont la personnalité juridique, alors que certaines autorités qui ne sont pas hautes ont aussi la personnalité juridique, ce qui introduit des éléments de désordre en plus dans l'examen de ces institutions. Elle est dirigée par un collège de 8 membres choisis comme ceux du CSA selon le modèle du Conseil constitutionnel. Là encore, on se trouve en présence d'une situation tout à fait nouvelle. On a considéré que l'utilisation de la méthode de recrutement du Conseil constitutionnel était un signe supplémentaire de l'indépendance de ces institutions, en oubliant que le Conseil constitutionnel est une juridiction, alors que ces instances, le Conseil constitutionnel l'a dit lui-même, ne sont que des instances administratives et qu'elles gardent ce caractère, sauf à faire voler en éclats, on le verra à la fin de cet exposé, toutes les notions fondamentales du droit constitutionnel français. Le Conseil constitutionnel est une juridiction, tandis que la nomination par les mêmes personnes des membres du collège d'un certain nombre d'autorités administratives indépendantes, y compris la Haute Autorité et à l'heure actuelle la HALDE également, est très curieuse. 8 membres, 2 nommés par le président de la République, 2 nommés par le président de l'Assemblée nationale, 2 nommés par le président du Sénat et, en plus, 2 nommés par le président du Conseil économique et social. Nouveauté par rapport au Conseil constitutionnel. L'administration est sous l'autorité d'un directeur général. Elle comprend un personnel de 350 personnes et de 3000 experts. L'objet étant de simplifier le système existant, c'est-à-dire dans le domaine de la santé et de la protection sociale, elle a absorbé 10 de commissions d'importance secondaire, mais on a malgré tout maintenu, pour des raisons qui étaient à la fois des raisons personnelles et des raisons générales, un grand nombre d'institutions chargées de problèmes de santé qui n'ont pas été intégrées dans la HAS. Dans ses fonctions propres, le Collège voit chacun de ses membres présider une des sept commissions dont la liste figure en annexe du texte et dont on pourra parler ultérieurement, mais la plus importante est la commission évaluation des médicaments, dite, parce qu'elle transcède une commission qui existe déjà, commission de la transparence, qui contient 20 membres nommés par le Collège, 4 membres de droit qui sont des directeurs de l'administration centrale, des directeurs de caisses d'assurance et seulement un représentant des formations de produits pharmaceutiques. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir quels sont les pouvoirs de l'institution, aussi bien de son ensemble, du Collège, que des commissions. Le texte le plus important qui m'a semblé, c'est le premier de la loi, et voici comment il est rédigé. Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article temps, la HAS rend des avis, formule des recommandations et propositions, et prend les décisions mentionnées à l'article temps. Autrement dit, on a le sentiment qu'il y a eu une certaine jubilation de la part du rédacteur de ce texte en utilisant des verbes et des compléments qui chacun avait l'air de se compléter, formule des recommandations, etc. Autrement dit, on est en présence d'un système de décisions qui sont prises soit comme des avis, soit comme des décisions définitives, et dont je vous donne la liste. Les avis, tout d'abord, je suis la liste. Les avis peuvent être demandés par le gouvernement à propos des décisions prises par le ministre ou d'autres autorités pour les arrêtés et les décisions. Les propositions peuvent être demandées par les ministres, mais aussi elles peuvent être des initiatives de l'AAS. Les recommandations concernent, d'après le texte, les opérations de remboursement des médicaments. Elles peuvent être demandées par les ministres, par les services, mais aussi correspondre à des initiatives de l'AAS et sur la demande d'entreprises ou de particuliers. Selon la jurisprudence, les recommandations ne sont pas susceptibles de recours, mais celles-ci pourraient l'être dans la mesure où, justement, elles aboutissent à des retraits, à des modifications de situation, à des retraits en matière de remboursement ou à des retraits complets. Et par conséquent, et on est en présence déjà d'un ensemble de situations qui correspond à une certaine vision très novatrice, si on peut dire, si on a un point de vue optimiste, très novatrice des problèmes de la santé. En outre, il est possible que le collège lui-même puisse déléguer sa compétence à la commission de la transparence. La commission de la transparence, parmi les 7 commissions, a donc une position extrêmement privilégiée et elle se trouve être à même de remplacer le collège lui-même. Et il est bien certain qu'on se trouve là en présence d'une situation dont la légalité est à nouveau incertaine. Enfin, à propos de la délibération des délibérations elles-mêmes des organes qui composent l'institution, on retrouve alors un problème qui est un problème important qui a été réglé en partie par le juge administratif et en partie par la Commission européenne, qui est le problème de l'impartialité des décisions. On se trouve ici en présence d'un phénomène qui est un des phénomènes majeurs des autorités administratives indépendantes. On retire leur pouvoir aux ministres parce qu'on pense qu'ils peuvent être partiaux et on les donne à un ensemble de personnes dont le contrôle de l'impartialité est difficile. Il n'empêche qu'il y a dans ces textes une infinité de dispositions qui permettent de gérer tout un ensemble en ce qui concerne l'impartialité. Et on sait d'ailleurs qu'aussi bien à la Cour de Luxembourg que aussi à la Cour de Strasbourg et qu'au Conseil d'État et même à la Cour de cassation, il y a un contrôle très attentif de ces problèmes de l'impartialité pour vérifier justement le problème de la situation indépendante de l'organisme. Les articles sont nombreux et les modalités concernent à la fois les agents à tous leurs degrés, les membres de la commission, les obligations sont particulières, elles sont très contraignantes et les règlements intérieurs de la haute autorité et de la commission de la transparence peuvent encore les accentuer avec des sanctions très importante. Mais il faut ajouter, en outre, qu'on est en présence d'un système qui aboutit soit à des procès constants avec leur lenteur, soit à admettre en bloc l'ensemble des solutions qui sont décidées par les divers organismes de la Haute Autorité de Santé. La loi a été soumise au Conseil constitutionnel, qui a rendu un arrêt qui ne concerne que des articles relativement réservés, et par conséquent, elle a été déclarée valide. Il reste donc maintenant à voir dans cette troisième partie les avantages, les difficultés et les risques. La première question qui se pose consiste à savoir pourquoi et comment on a substitué à un certain nombre de décisions ministérielles les décisions, quel que soit leur nom, de la haute autorité. Il y a encore sur ce point des précédents concernant la CADA et la CSA. Et le collège comporte des membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. Là encore, un autre élément est intervenu. Comment peut-on, au titre de la séparation des pouvoirs, considérer que des autorités qui sont dites administratives puissent comporter des membres du Parlement? C'est une atteinte au principe de séparation. D'autre part, la question majeure est celle du pouvoir réglementaire. Les autorités administratives indépendantes, la Haute Autorité de Santé comme les autres, disposent largement d'un pouvoir régulateur. On dit une régulation pour ne pas dire un règlement, mais c'est la chose est la même du point de vue juridique. C'est-à-dire que dans le système français où la jurisprudence du Conseil d'État depuis toujours et les constitutions aussi décidaient que seuls les ministres agissaient par voie réglementaire ou leur délégant, en ce qui concerne l'État, bien entendu, ou par délégation des ministres. Or, ici, on se trouve en présence d'organismes qui disposent d'un pouvoir de régulation dans les domaines qui sont les leurs, et ce pouvoir de régulation relève évidemment du contrôle du juge administratif. Ici, s'agissant de réglementaire, il s'agira du contrôle exercé par le Conseil d'État. Il est arrivé que déjà le Conseil d'État annule des règlements émanant d'autorités administratives indépendantes, mais il est certain qu'on est en présence d'un mécanisme qui, par lui-même, est en train de générer une déviation très profonde dans le système administratif français. En troisième lieu, le contrôle juridictionnel est un contrôle très diversifié. J'y ai fait déjà fréquemment allusion et je dois dire qu'il faut y revenir. Comment a-t-on pu admettre, même avec l'argument qui a été invoqué par le Conseil constitutionnel, qu'une autorité judiciaire pouvait contrôler, et notamment en ce qui concerne des questions aussi importantes que les médicaments et tous leurs aspects, contrôler une décision prise par une autorité administrative? Je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, d'ailleurs, la Cour d'appel de Paris n'est pas seule compétente, et le Conseil d'État et les tribunaux administratifs peuvent également intervenir, ce qui donne lieu à des difficultés de compétences insurmontables. Mais il y a mieux, et ceci concerne le CSA. Il y a mieux, c'est que dans le cas du CSA, apparaît pour garantir les droits des particuliers une confirmation de certaines des décisions les plus importantes par le président de la section du contentieux du Conseil d'État. On est là dans un système assez extraordinaire qui consiste à dire qu'un certain nombre de décisions les plus graves qui émanent du CSA doivent être confirmées et pour leur exécution par le président de la section du contentieux. Le président de la section du contentieux est un magistrat, même si les membres du Conseil d'État ne sont pas dits magistrats, il n'empêche qu'il rend la justice. C'est lui qui va donc confirmer un certain nombre de décisions concernant le CSA. Et on a espéré à un certain moment que la même chose pourrait se faire pour la Haute Autorité de Santé. Après tout, ce serait une garantie à partir d'un système qui n'en comporte pas, mais ceci n'a pas été fait. En revanche, le système de l'approbation par le président de la section du contentieux est apparu également pour l'autorité nouvelle, l'Agence de régulation des télécommunications. En fait, et on peut revenir encore sur cette question, c'est le problème des conflits d'intérêts qui peuvent apparaître. Le mot est dans la loi, des conflits d'intérêts qui peuvent apparaître à l'intérieur des organes délibérants, qu'il s'agit de la Haute Autorité de Santé ou des autres. Or, nous sommes en présence d'une difficulté qui est majeure dans ce cas, c'est celle de ce que la Cour de justice des communautés a appelé le procès équitable. Là encore, on entre dans un système où les mots perdent leur sens, car il s'agit de l'article 6 de la Déclaration de la communauté. Or, cet article 6 concerne normalement les juridictions. Or, par extension, la Cour de justice, le Conseil d'État, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel ont considéré que ce problème du procès équitable valait pour des organismes administratifs, c'est l'expression qui est prononcée elle-même, qui, en raison de la nature de leur composition et de leurs attributions, peuvent être qualifiés de tribunaux au sens de l'article 6. Et par conséquent, on est en présence ici d'idées issues de la jurisprudence, mais qui aboutissent à un contrôle qui est exercé actuellement, mais qui supposerait des litiges de très grande importance et qui se heurte à un certain nombre de problèmes de preuve d'un grand intérêt. Alors, s'il s'agit de conclure, on peut dire qu'évidemment, il y a une différence qui est due sans doute à la confection des textes concernant ces divers organismes et qu'il serait peut-être utile qu'il y ait un statut, comme on l'a demandé pour les entreprises publiques sans jamais l'obtenir à une certaine époque, un statut unique des autorités administratives indépendantes. Un statut unique résultant de la loi et qui permettrait d'unifier un système qui est extrêmement diversifié, comme vous l'avez vu, en ce qui concerne les compétences, en ce qui concerne la régulation, en ce qui concerne les sanctions. Et les sanctions, vous le savez, les sanctions du Conseil de la concurrence, par exemple, sont des sanctions extrêmement importantes. Mais au-delà de ce problème de l'unicité des autorités administratives indépendantes, reste le problème de leur existence même. On se demande alors comment se situera l'état de l'avenir en présence d'organismes de ce genre qui prolifèrent, et il faut dire que ça prolifère dans tous les pays, si bien que le problème n'est pas français, et que peut-être même le mauvais exemple a été donné de l'extérieur. On pourrait donc imaginer un état qui serait complètement renversé, où la séparation des pouvoirs n'existerait plus, puisque nous avons dans une autorité administrative indépendante à la fois le pouvoir législatif par le pouvoir régulateur, à la fois le pouvoir administratif par les décisions individuelles et le pouvoir judiciaire par les sanctions. Et par conséquent, on a abandonné le principe de séparation des pouvoirs au profit d'une unité. Est-ce qu'un statut unique pourrait aboutir à accepter cette unité ? Et puis, il y a un autre risque qui peut se produire encore, c'est que le nombre de ces organismes se développe et que finalement, les ministères eux-mêmes soient dévorés. Par exemple, on n'a jamais fait de recherche en ce qui concerne l'amenuisement du ministère de la Santé par rapport à la Haute Autorité de Santé. Qu'est-ce qui est resté dans le ministère et qu'est-ce qui est venu dans la Haute Autorité ? Le même problème peut se poser. Et il est évident qu'en ce qui concerne la concurrence et les problèmes fonciers, les problèmes en ce qui concerne la banque et la bourse, on est en présence d'institutions qui ont maintenant leurs assises, qui ont créé leur tradition, mais il n'empêche que l'institution par elle-même, pourquoi ne pas créer une juridiction spécifique concernant les problèmes de ce genre ? Et par conséquent, on aboutirait à un État qui volerait en quelque sorte complètement en autorités administratives indépendantes, soi-disant indépendantes les unes des autres, et le pouvoir exécutif par lui-même tendrait non pas à disparaître, mais simplement à exercer une coordination entre des organismes autonomes. On voit que la situation des autorités administratives indépendantes est très incertaine et qu'il n'est pas possible de formuler à leur propos des jugements définitifs. Merci.
Vous venez d'entendre Roland Drago de l'Académie des sciences morales et politiques. C'était une communication du 29 octobre 2007 et elle avait pour thème les autorités administratives indépendantes dans le domaine de la santé.